Alors, je suis désolé, c'est un petit peu long, mais il le faut. Maintenant, donc, on a fait les données, les limites des données. On va pouvoir poser quelques définitions pour bien se mettre d'accord, histoire qu'il n'y ait pas trop de discussions sur notre travail. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, il nous faut poser quelques définitions pour s'y retrouver dans le jargon judiciaire. Nous tâcherons de les rendre abordables, ces définitions. Pour aller plus loin et de manière plus précise, pareil, nous mettons en lien deux documents officiels sur le sujet dont sont tirées les définitions qui suivent. Donc le premier qui s'appelle définition statistique, le deuxième c'est le glossaire des rapports annuels voilà, de statistiques pénales. Donc entre les deux, il n'y a pas de souci. À vous d'aller voir. Donc on va commencer par le terme poursuite. Donc grosso modo, une poursuite, c'est le déclenchement de l'action publique. Et oui, puisque aller porter une plainte, c'est pas ce qu'ils appellent l'action publique. Porter une plainte au parquet, c'est pas l'action publique. L'action publique, elle démarre quand des gens, des institutions se mettent, entre guillemets, à prendre en charge le dossier. Voilà, tout ce qui est examen du dossier préalable pour voir s'il est consistant ou pas de leur point de vue. C'est pas encore l'action publique. Donc vraiment, la poursuite, c'est le déclenchement de l'action publique. Le taux de réponse pénale, donc ça nous intéresse, c'est il mesure la part des affaires poursuivables, entre guillemets, faisant l'objet de poursuites, soit d'une mesure, alors soit d'une poursuite, soit d'une mesure alternative. Alors, faut savoir que une mesure alternative, ça comprend des compositions pénales. Alors, la composition pénale, c'est plus communément appelé ce que tout le monde appelle aménagement de peine, ce qui était quand même plus compréhensible et transparent. D'accord? Donc la composition pénale, on croirait une peinture artistique, hein, la composition pénale, c'est magnifique, encore ces neuf langues de merde, recouvre différentes réalités, donc ça peut être soit des amendes, ça peut être soit des remises du permis de conduire ou de chasser, donc ça c'est pas pour les viols sur mineurs, ça peut être un travail non rémunéré au profit de la collectivité, ce qu'on appelle plus communément des TIG, des travaux d'intérêt généraux. Ça peut être des stages ou des formations dans un service sanitaire, social ou professionnel. Donc, vous voyez, donc il y a plein de manières de faire éviter aux gens la prison ferme en remplaçant ça par autre chose. D'ailleurs, on n'a pas cité bracelet électronique, le fait de devoir aller pointer dans un commissariat, etc. Bon, bref, il y a plein de manières. Donc, la réponse pénale, ça inclut donc les compositions pénales exécutées. Il faut que les gens le fassent quand même. Parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui ne le font pas. Hein. Les transmissions au juge d'instruction et les transmissions à une juridiction pour mineurs, parce que des fois les auteurs sont mineurs, on y reviendra. Les poursuites devant le tribunal correctionnel ou les poursuites devant le tribunal de police, sachant que devant le tribunal de police, c'est quand même pour les viols sur mineurs, agressions sexuelles sur mineurs, c'est très rare et ça n'a plus trop lieu d'être. Donc pour faire simple, le taux de réponse pénale, c'est donc le ratio, vous divisez, donc. En haut, le nombre d'affaires poursuivies, et en bas, le nombre d'affaires totales arrivant au parquet. Voilà, quel est le pourcentage d'affaires qui arrivent au parquet qui est effectivement poursuivi par quelque chose en justice. Donc c'est bien ça, le taux de réponse pénale. Hein. Instinctivement, intuitivement, c'est bien de ça qu'on parle. Donc c'est là-dessus qu'on va rester. Le taux de classement sans suite. Alors là, c'est la blague. Le glossaire, il dit, c'est le complément, je cite, hein, c'est le complément du taux de réponse pénale. Point. Il est calculé sur les seules affaires poursuivables. Le taux de classement sans suite. Donc là, déjà, on est sur une contradiction logique dans les termes. Mathématiquement, et le complément, c'est comme ça qu'on désigne les choses. D'ailleurs, les statistiques, c'est des maths, hein, peu importe l'objet qu'on regarde. Donc on est bien sur des définitions mathématiques. Le complément du taux de réponse pénale, c'est le ratio entre le nombre d'affaires qui ne donnent pas lieu à une réponse pénale, donc les affaires non poursuivables et les affaires. Le total des affaires qui arrivent au parquet. C'est ça le complément de la réponse pénale. Sauf que donc la deuxième phrase, elle dit exactement, elle dit autre chose. Donc en fait là vous avez deux phrases, déjà ça colle pas. La deuxième phrase nous fait rendre compte que la définition officielle du classement sans suite est une sorte de classement sans suite mais secondaire parmi les affaires poursuivables. Ce qui a pour résultat, comme de juste, de minimiser ce fameux taux de classement sans suite. D'accord? Donc en fait, vous vous rendez compte que le taux de classement sans suite officiel et le taux de réponse pénale officiel, en fait, ça colle pas, ça fait pas 100%. Eh oui, parce qu'entre-temps, on a donc en fait le premier filtre de ce qui est poursuivable ou pas, et puis on aurait derrière donc des juges qui viennent, enfin des gens qui travaillent à la justice, qui viennent et qui disent, ah oui, mais en fait, parmi ces poursuivables, il y a quand même toute une partie qui sont aussi sans suite. Donc là, je vous avoue qu'on comprend pas bien. Hein. Donc nous, pour la clarté des choses et pour le bon sens, et on milite pour le bon sens, on maintiendra ici la définition évidente et première du classement sans suite, qui est effectivement donc le complément du taux de réponse pénale, comme dit dans la première phrase. Donc le ratio entre le nombre d'affaires qui ne donnent pas lieu à une réponse pénale, donc non poursuivable, et le nombre d'affaires totales arrivées au parquet. On est d'accord? Donc vous avez 100% des affaires qui arrivent au parquet. Le taux de réponse pénale, c'est ce qui donne lieu à des poursuites. Le taux de classement sans suite, c'est ce qui donne pas lieu à des poursuites. L'un plus l'autre égale 100%. OK? Égale le nombre d'affaires totales. Jusque-là, tout va bien. La durée des affaires ou durée de la procédure, elle est exprimée en mois. Elle est calculée par différence entre la date de saisine du tribunal, donc la date à laquelle l'affaire arrive au tribunal, et la date de la décision, donc qui dessaisit de la décision du tribunal, qui va dessaisir ce tribunal de cette même affaire. Et donc le chiffre total fourni est la moyenne des durées de toutes les affaires terminées dans l'année. Voilà donc la définition officielle. Alors sachant que vous avez bien compris qu'entre la date de la décision du tribunal, alors à moins qu'il y ait un mandat de dépôt, hein, et que la personne qui est condamnée aille directement en prison, mais il peut encore se passer du temps entre la décision finale, donc en appel, ou même en cassation, ou même retour en appel suite à la cassation, hein, des différents jugements et le moment où effectivement le condamné entre physiquement en prison, où l'application de la peine est effective. Mais bon, ça rajoute un peu, on n'a rien là-dessus, donc on laisse la définition telle que là, c'est-à-dire la durée des affaires ou de la procédure entre le moment où la plainte arrive au tribunal. Ah oui, j'ai oublié d'ajouter, donc on peut avoir posé une plainte à la police ou à la gendarmerie. Néanmoins, si cette plainte, la durée de l'affaire ne commence qu'au moment où la police et la gendarmerie donnent, enfin, une fois qu'elle a enquêté, elle donne cette plainte au parquet. Donc en fait, il y a du rab avant de cette durée là des données qu'on a, et il y a du rab après. Et c'est en moyenne, hein, c'est en moyenne. C'est-à-dire que quand on fait une moyenne à 9 ans pour la durée des procédures, ben, il y a des procédures qui durent 10 ans, 11 ans, 12 ans. Il y en a d'autres qui durent 8 ans, 7 ans. D'accord? C'est une moyenne. Et donc, comme je vous dis, c'est pas la durée qui prend. Voilà, ça prend, tient pas compte du point zéro où vous rentrez la première fois devant quelqu'un pour prendre la plainte, que ce soit un gendarme, un policier, ou directement le parquet, ou même des services sociaux qui vont après faire parvenir la chose, le signalement au parquet. La fin, c'est pas non plus le moment où la personne rentre en prison. Ou fait son tige, ou je sais pas quoi. Donc voilà ce qu'est la durée des affaires dans ces stats. Un mineur, alors ça a l'air évident, évidemment c'est pas celui qui enlève du charbon dans les mines, c'est le mineur par rapport à son âge, c'est un individu, garçon ou fille, de moins de 15 ans, quand il est victime. Eh oui, quand on est victime, on est mineur de 15 ans, à cause de la majorité sexuelle, entre guillemets, qui avait été baissée en 81 par Mitterrand. De 21 à 18 ans pour la majorité sexuelle de 18 à 15 ans, si je vous rappelle, à quelques mois près, il faut préciser. Mais quand le mineur est agresseur sur un mineur, alors là, un mineur, il a moins de 18 ans. Donc vous voyez que finalement, à cause de cette histoire de majorité sexuelle, il y a 3 ans de tampon, et dans les statistiques, ben en fait, c'est pas les mêmes bases. Et ouais. Parce qu'effectivement, à 17 ans, on peut être condamné. C'est pas parce qu'on a moins de 18 ans, on peut être condamné quand même pour un viol sur mineur. Alors évidemment, ce sera moins dur, certainement, que pour un majeur, mais quand même. Un crime. Bon, je vous l'ai mis, vous le savez, mais bon, c'était quand même parce que c'était un peu croustillant. Infraction punie par la loi d'une peine de réclusion criminelle. Jusque-là, tout va bien. Je cite, par exemple, le meurtre puni d'une peine de 30 ans de réclusion. Et le viol, puni d'une peine de 15 ans de réclusion criminelle, sont des crimes. Donc là, on est sur des peines théoriques, hein, prévues par le code pénal. Donc le viol est un crime, le viol sur mineur est un crime aggravé. Donc on est plutôt à 20 ans, je crois, pour les viols sur mineurs. Donc voilà la théorie, hein, du monde dans lequel on vit. Vous allez voir la pratique. Aller en prison. Alors, ce n'était pas la définition telle que, parce que ça n'existe pas, mais c'est pour regrouper, j'ai essayé de donner des choses à peu près claires. Donc, aller en prison, c'est une notion qui recoupe différents vocables et différentes réalités. Voilà. Pourtant, pour le commun des mortels, ça a l'air simple, hein. On rentre dans une prison, on est prisonnier. Voilà, jour 1. Donc déjà, l'emprisonnement. Je cite, l'emprisonnement, c'est le fait d'être condamné par un tribunal pour une peine de prison pour avoir commis un délit. D'accord? Comme l'agression sexuelle sur mineur. Donc si vous êtes condamné à aller en prison pour un délit, c'est de l'emprisonnement. La réclusion, c'est le fait d'être condamné par un tribunal à une peine de prison pour avoir commis un crime. Voilà, rien que le mot est différent suivant si c'est un délit ou un crime. Mais cela ne veut évidemment pas dire que le condamné ira physiquement en prison. Et non, parce qu'il peut y avoir des sursis à cette peine prononcée, des sursis totaux, où le gars ira pas du tout, ou des sursis partiels. On te dit, bah, tu es condamné à 2 ans de prison ferme, mais avec 1 an avec sursis. Ou par exemple, 3 ans de prison, 2 ans ferme, 1 an avec sursis. Donc c'est un sursis partiel. Et puis derrière, il y a des aménagements de peine, comme je vous l'ai dit, dans ce qu'ils appellent les compositions pénales, des mises à l'épreuve, etc. Donc nous retiendrons le terme emprisonnement dans la suite de cet article, pour désigner un condamné qui va aller réellement, physiquement, en prison, au moins une nuit. Ce qu'on pourrait désigner par le terme peine de prison ferme effective. Effective parce qu'elle a été réalisée. Au moins en partie, mais en tout cas effective, il ira au moins un jour en prison. Attention, à cela s'ajoute, une fois en prison, le système des réductions de peine. Alors, il y a des réductions de peine pour bonne conduite, pour le comportement, et des réductions de peine pour des mesures de réinsertion, c'est-à-dire apprendre à lire, apprendre à un métier, etc., etc. Travailler un peu. Donc l'article qui légifère ça, c'est l'article 721 du Code de procédure pénale, qui encadre tout ça et qui permet à un prisonnier de se voir effacer, écoutez bien, entre 5 à 6 mois par année de détention. D'accord? Vous allez en prison, si vous faites tout ce qui est bien, vous faites le bon gentil, bon élève, vous avez quasiment la moitié de votre peine qui saute. D'accord? Donc, une peine de 4 ans ferme, c'est en vrai 2 ans. Une peine de 10 ans ferme, en fait, c'est 5 ans. Voilà. Nous y reviendrons plus tard. Voilà. Alors, on y va maintenant pour ces préalables, ces prérequis, donc qui étaient sur l'origine des données, les limites des données. Et les définitions, on va pouvoir, on y voit un peu plus clair, on est tous d'accord sur ce qu'on étudie et la manière dont on le nomme. Donc on y va, on étudie donc l'origine des arrivées des affaires dans les tribunaux. Donc d'abord ce qui rentre. Jusque-là, wanted pedo, nous assumions que l'immense majorité des affaires arrivant, donc d'abus sexuels sur mineurs arrivant devant un tribunal, était le fruit d'une plainte déposée soit dans les services de police, soit dans les services de gendarmerie. Mais en fait, ce qu'on découvre, c'est que déjà en 2012, donc nous l'association a été créée en 2014-2015, donc déjà cette proportion en 2012, au départ du jeu de données, elle est que de 71% pour les viols sur mineurs et 52% pour les agressions sexuelles sur mineurs. Et en plus, c'est de moins en moins le cas. C'est-à-dire le fait que les plaintes émanent de la police et de la gendarmerie quand elles arrivent au parquet, bah c'est de moins en moins le cas. Donc c'est déjà étonnant, étonnamment, donc une proportion importante des affaires arrivant dans le parquet, et c'est le fait de la justice elle-même, 1,5%, des personnes directement, donc c'est des citoyens qui vont porter plainte au parquet, 10 à 15%, pour les abus sexuels sur mineurs, hein, et d'autres institutions, 15 à 30%. Donc ça, il n'est pas précisé de quelles institutions on parle, mais on espère que principalement, ça doit certainement être des services sociaux. Donc, très content de constater quand même qu'il y a des gens, évidemment, on le savait, hein, on leur tape dessus quand ça va mal, mais on va être capable aussi de dire que les services sociaux font visiblement de mieux en mieux leur travail, de plus en plus en tout cas, ou ils sont de plus en plus sollicités pour ça. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de plaintes pour viol, pour abus sexuels sur mineurs qui émanent des services sociaux qui arrivent au parquet. Donc c'est bien. En 2022, donc ça c'était 2012 et sur la période 2012-2022, si on se place maintenant en 2022, on constate que la proportion d'affaires arrivant au parquet par la police-gendarmerie a nettement baissé. On partait de 71% pour les viols, on se retrouve à 62%. Donc ça fait une baisse de 13%. Alors là, bon, je vous le dis une première fois, mais après vous l'aurez en tête. Donc effectivement, 71 moins 62, ça fait 9%. Oui, mais on parle en proportion. De combien de pourcents ça a diminué? Donc, si vous voulez, 71%, c'est 100%. Et combien ça fait 62 par rapport à 71? Hein, c'est l'un par rapport à l'autre, c'est relatif. Donc, la baisse, elle est bien de 13%. D'accord? Si on a 71% et qu'on diminue de 10%, on n'obtient pas 61, on obtient 71 moins 7,1. Ok? Ça va? Pour ceux qui font des calculs de tête et qui trouvent que ça colle pas. Donc, effectivement, on passe de 71% à 62% et on passe de 52% à 43% pour les agressions sexuelles sur mineurs. Donc, moins 17%. Donc, c'est quand même des baisses très importantes, hein, 13%, 17%. On peut faire l'hypothèse que la société dans son ensemble, victimes, services sociaux, avocats, a en fait intégré le fait qu'il vaut mieux éviter les services de police et de gendarmerie pour augmenter ses chances de voir sa plainte pour abus sexuels sur mineurs être prise en charge. C'est une hypothèse qu'on fait. Nous, d'après ce qu'on constate, effectivement, beaucoup de gens nous disent que bah, il y a des gendarmes, il y a des policiers, il y a même eu du testing qui a été fait par téléphone, et bah, dissuade les gens de porter plainte. Pour des raisons idéologiques parfois, pour des raisons donc même de militantisme pro-pédo, disons les choses, pour un certain nombre, espérons une minorité, pour des histoires aussi de chiffres, c'est-à-dire que bah, le policier, le commissariat, la gendarmerie sont jugés sur les chiffres, politique du chiffre. Donc finalement, on se retrouve à avoir des affaires de viol sexuel sur mineur, d'abus sexuels sur mineurs qui sont difficilement élucidables. Donc ça fait baisser les chiffres. Donc c'est pas bien de les prendre. Donc en fait, on peut éventuellement même, voilà, imaginons un commissaire qui a ses primes par rapport aux chiffres des résultats de son commissariat, et ben il fait passer oralement la consigne à ses gars que bah, pour tout ce qui est violence sexuelle, si on peut éviter de prendre la plainte, on évite de la prendre. Voilà. Et si le moins on en a, et le plus on aura des primes à la fin. Et les primes seront redistribuées sur les policiers et les gendarmes. Eh ben oui. Hein, vive le monde dans lequel on fonctionne. Alors du coup, ça fonctionne, puisque les gens par vase communicant, étant dit, sachant pertinemment qu'il vaut mieux pas aller voir des policiers et des gendarmes pour porter plainte, eh ben du coup, ils vont plutôt voir les services sociaux ou même leurs avocats leur conseillent d'aller directement porter plainte au parquet. Parce que vous imaginez bien qu'un citoyen lambda normal ne se dit pas, tiens, je vais aller porter plainte au parquet, ça sera mieux. Hein, s'il n'y a pas un avocat pour lui conseiller. Ça n'arrive pas. Donc pour arriver à 10 à 15% des plaintes qui arrivent directement au parquet par des personnes, hein, quand on dit porter plainte, on n'imagine pas le palais de justice. Je sais pas vous, moi, porter plainte pour moi, c'est police, gendarmerie, c'est pas palais de justice. On va pas porter plainte au palais de justice, au parquet. Ok. Donc c'est une hypothèse, voilà, on la pose là au milieu de la table, on peut en discuter. Un chiffre encore plus troublant semble confirmer cette hypothèse. Alors, on se rend compte qu'en 2012, la quasi-totalité des plaintes déposées à la police-gendarmerie étaient effectivement envoyées au parquet. Parce qu'en fait, on a le chiffre des plaintes qui sont recensées par la police et la gendarmerie, et on a le chiffre des plaintes arrivant au parquet depuis la police et la gendarmerie. Donc, entre guillemets, normalement, c'est censé être la même chose, hein. C'est les mêmes papiers qui sont envoyés d'un endroit à un autre. Donc il y a une personne qui note le papier au départ, une personne qui note le papier à l'arrivée. Voilà, à quel moment, donc c'est quoi? C'est les facteurs, c'est la poste, c'est ça? C'est la poste qui perd l'accusé de réception? Bon. Non, ça peut être aussi des gens qui retirent leur plainte. Ça peut être, tu vois, en cours d'enquête. Bah finalement, la personne, bah soit elle a reçu des menaces, soit voilà, pour X raisons, elle retire sa plainte avant que la police l'ait envoyée au parquet, avant qu'elle ait fini l'enquête. Bon, admettons. Mais vous voyez que ça, c'est que 82% pour les viols et 93% pour les agressions. Donc c'était quand même l'immense majorité. L'immense majorité, hein. Et ce chiffre, il a drastiquement diminué en 2022. Donc c'était là, les chiffres que je vous donnais, c'était 2012. 82% des plaintes pour viol et 93% des plaintes pour agression arrivées au parquet, depuis la police-gendarmerie. Déposées en police-gendarmerie, arrivées au parquet. Et ce chiffre, en 2022, il est que de 52% pour les viols, moins 37%, et 46% pour les agressions sexuelles, moins 51%. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que j'ai dit. Oui, vous avez bien lu, ou entendu. Une plainte sur deux déposée pour abus sexuels sur mineurs dans les services de police et de gendarmerie en France en 2022, elle n'arrive pas au parquet. Donc, alors moi voilà, c'est l'hypothèse qu'on fait. A priori, c'est ce qu'on appelle le classement vertical, que tous les policiers et gendarmes de France connaissent bien. Le classement vertical qui va du bureau directement dans la poubelle qui est en dessous. Voilà, c'est discuter autour de vous. Tout le monde a un policier, un gendarme ou un militaire dans la famille. Allez-y discuter. Vous lui posez, c'est quoi le vous lui demandez, hein, c'est quoi le classement vertical des plaintes? Tu peux m'expliquer? Sauf que là, ça fait beaucoup quand même. C'est la moitié là. Enfin, ça fait beaucoup trop surtout. Donc ça veut dire, alors l'implication de ça, elle est énorme, ça veut dire que tous les chiffres d'abus sexuels sur mineurs qui ont été présentés précédemment sur le site de Wanted Pedo depuis les dernières années sont à revoir à la hausse. Eh oui, c'est à revoir à la hausse, puisque y a une partie de ces plaintes qui, en fait, nous, on tenait compte que des services de police et de gendarmerie, mais en fait, il y a toute une partie des plaintes qui arrivent au parquet qui court-circuitent ces services de police et de gendarmerie. Donc, il y a beaucoup plus, en fait, d'abus sexuels sur mineurs, de viols et d'agressions sexuelles, puisque nous, on n'a jamais tenu compte de ces actes qui ne passaient pas, qui court-circuitaient la police et la gendarmerie. Donc, si on refait nos calculs, on obtient pour l'année 2022 un total, donc là où ça tient compte de ce qui est déposé en gendarmerie et en police, ce qui court-circuite, et donc on prend les chiffres de police et de gendarmerie totaux. Et on n'enlève pas la moitié qui est filtrée par les polices et gendarmerie et qui ne veulent pas les envoyer au parquet. Hein? Donc, on obtient donc pour l'année 2022 un total de 25 991 viols sur mineurs et 44 972 agressions sexuelles sur mineurs. Donc, si la proportion prudente d'une victime sur 8, certains évoquent une sur 10 qui porte plainte, donc une victime sur 8 qui porte plainte, donc nous c'est prudent, hein, sinon il faudrait multiplier par 10, mais on ne multiplie pas par 10, voire les multiples enquêtes de victimation sur notre site, donc je vous renvoie d'où les chiffres sont tirés. Nous donne donc une estimation annuelle d'environ 208 000 viols sur mineurs et 360 000 agressions sexuelles sur mineurs par an en France. Je vous donne les graphiques ci-dessous. Vous pouvez revoir donc la courbe rouge, c'est l'index 4001. Non, par contre, c'est ce qui arrive au parquet. La courbe bleue, c'est l'index 4001. Et vous voyez que entre la courbe bleue et la courbe orange, il y a tout ce qui est entre les deux, c'est ce qui n'arrive jamais au parquet. Vous voyez? Et la courbe rouge, c'est la somme de ce qui arrive au parquet par la police gendarmerie, le orange et autrement le mauve et plus les autres qui arrivent par d'autres voies. Voilà, et on se retrouve avec la même chose pour les agressions sexuelles. Donc voilà. Donc pour les petits malins qui calculent vite aussi, donc vous voyez que sur ces graphiques, on a si vous faites la somme des viols arrivant au parquet par la police gendarmerie et des viols sur mineurs arrivant au parquet autrement, la somme des deux, vous voyez par exemple pour 2021, on est à peu près à 10 000, 6 000, ça fait 16 000, il manque 2 500 par rapport à la théoriquement à la courbe bleue. Non, à la courbe rouge, pardon. 100% des viols arrivant au parquet. Et ça, ben, je ne sais pas. Voilà. Le jeu de données, il est comme ça. Soit c'est pas renseigné, c'est possible, hein, que t'aies une partie que les affaires, la case reste vierge. Et puis ça paraît pas dans le jeu de données. Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. Adressez-vous directement au ministère de la Justice pour dire que la somme des colonnes de leur base de données, elle colle pas. Pour les agressions, c'est un peu la même chose. C'est même bien plus la même chose. On est à 12 000, 15 000, au lieu de, donc ça fait 27 000 au lieu de 32 000. Donc il manque 5 000. Voilà. Je n'ai pas de réponse. On continue. Donc après les origines des affaires, les poursuites pénales des affaires arrivant au parquet. Donc après le filtre des victimes mineures qui ne sont pas entendues par les adultes et qui ne portent pas plainte, hein, parce qu'il y a quand même ça. Donc 7 sur 8. Après le filtre des classements sans suite verticaux par les services de police gendarmerie, donc 1 sur 2 de ce qui reste, intéressons-nous à ce que fait la justice avec les affaires qui subsistent. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a 7 huitièmes qui portent pas plainte. Sur ce 1 huitième qui reste, il y a déjà la moitié. Malgré ces filtres, le nombre de cas ne fait qu'augmenter dans des proportions importantes sur 2012-2022. D'accord? Donc en 10 ans, on a plus 106% pour les viols. Et plus 46% pour les agressions. Pour autant, la réponse pénale ne suit pas la tendance et augmente un peu en valeur absolue. Donc la réponse pénale, en valeur absolue, elle augmente de 17% pour les viols, alors que les viols qui arrivent, ils augmentent de 100%. Et même elle diminue de 6% pour les agressions, alors que dans le même temps, les agressions sur 10 ans, elles ont augmenté de 46%. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc voyez plutôt le graphique ci-dessous. Donc en fait, on a une réponse pénale, les deux courbes du bas, vert et rouge. Les viols sur mineurs, je vous mets. Ah oui, tout le reste de l'article. Donc en gros, les viols sont plutôt sur des teintes rouges et les agressions sur des teintes vertes. Ça facilite la lecture. Donc on se retrouve avec, bah en fait, des chiffres de réponses pénales, du nombre de dossiers qui donnent lieu à des poursuites, bah qui augmente à peine, quoi. Qui est vraiment dans le même ordre de grandeur, quoi. 4 800, 4 500, 2 500, 2 800. Voilà. Alors que dans le même temps, les viols, ça passe de 9 000 à 19 000, et les agressions de 22 000 à 32 000. Donc le taux de réponse pénale, donc forcément, quand on fait le ratio entre les deux, bah il s'effondre totalement. On a énormément d'affaires qui arrivent en plus, et à peine, voire, enfin, ça stagne au niveau des poursuites. Donc ainsi, le taux de réponse pénale s'effondre, moins 43% pour les viols, moins 37% pour les agressions sur 10 ans. Pour atteindre des taux de réponse pénale lamentablement bas, avec seulement 15%, une affaire sur 7 des affaires d'abus sexuels sur mineurs arrivant au parquet qui donne lieu à des poursuites, juge d'instruction au tribunal correctionnel. D'accord? Donc, en 2012, c'était seulement un quart des affaires qui arrivaient au parquet qui aient donné lieu à des poursuites. C'est pas forcément des condamnations, hein. Juste des poursuites. Juste, on s'en occupe. Là, maintenant, on est à 15%. Voilà. Parce qu'il y a tellement d'affaires qui arrivent. Bon, bah, de toute façon, fait ce qu'on peut, hein. Super. Essayons maintenant de voir quels sont les motifs invoqués permettant d'abandonner les affaires. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on trie entre poursuivables et non poursuivables? Nous avons pris les chiffres totaux sur la période 2012-2023 et uniquement pour les agresseurs majeurs, hein, pour les agresseurs majeurs sur des victimes mineures, ce qui remonte un peu le taux de poursuite quand même. Sans surprise, c'est l'infraction insuffisamment caractérisée qui arrive en tête, suivie par l'absence d'infraction. La crédibilité de la parole de l'enfant contre celle de l'adulte auprès d'un tribunal est une composante de ces faits, ça c'est nous qui l'affirmons, de notre expérience personnelle d'association et d'accompagnant de victimes. On peut évoquer au passage le faible taux de correctionnalisation institutionnelle des viols sur mineurs. Hein, souvent on parle de la correctionnalisation des viols, qui est seulement de 3% dans les chiffres. Sauf que ce chiffre, en fait, il n'est pas représentatif du phénomène global de correctionnalisation des viols. Donc correctionnalisation des viols, c'est-à-dire que vous êtes victime mineure, vous avez subi un viol, donc une pénétration vaginale, anale, buccale, digitale, ou même avec des objets. Et du coup, la justice dit que comme vous n'avez pas de quoi prouver ce que vous dites, en fait, ce serait mieux de porter plainte ou de transformer votre plainte pour viol en plainte pour agression sexuelle, ça sera plus facile à prouver, etc., etc. Donc ce chiffre n'est pas représentatif du phénomène global, puisque bien souvent cette correctionnalisation se fait en amont au niveau de la formalisation de la plainte avec le conseil de l'avocat qui connaît ces statistiques justement et qui veut éviter l'infraction insuffisamment caractérisée, classique dans le cas d'un viol. Et la déception d'une relaxe en faisant miroiter une condamnation plus probable, mais bien moins sévère en correctionnel. Et puis évidemment, si vous portez plainte pour viol et agression, ça fait deux plaintes, ça coûte plus cher. Hein, donc c'est pas la double plainte. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils avaient mis en place le délit d'atteinte sexuelle sur mineur, qui permettait pour quelqu'un qui avait un viol insuffisamment caractérisé entre guillemets de pouvoir se rabattre, que le juge puisse se rabattre sur atteinte sexuelle sur mineur. Voilà, qui était réservé aux victimes mineures à l'époque. Donc par exemple sur ce sujet de la correctionnalisation des viols, nous on vous renvoie à la seule étude qu'on connaît sérieuse en France qui a été faite par une partie du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, donc l'égalité homme-femme ou je sais plus quoi. Ils avaient mis quelqu'un dessus et avec les statistiques internes de leur département en 2013-2014, ils arrivaient plutôt à 50%. Hein. Je vous laisse voir les chiffres, il y a des petites infographies. Donc on se retrouve pour les viols, et bien voyez, à grosso modo, 29% de suite, 3% en tribunal correctionnel, 26% juge d'instruction. Et tout le reste, c'est nada. C'est non poursuivable. Pour les agressions sexuelles sur mineurs, qui sont pourtant plus faciles à prouver, là on va avoir effectivement, regardez, tribunal correctionnel dans 18% des cas, et 8% seulement en juge d'instruction. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ce chapitre? Oui, c'est un petit peu la petite musique qu'on suppose qu'on va entendre de la part des gens qui travaillent dans la justice à ce niveau-là. Mais en fait, ma bonne dame, de toute façon, les places de prison, elles sont limitées. Notre capacité de travail, elle est limitée. On n'a pas les moyens. Donc en fait, ce que vous voyez là, la réponse pénale qu'on a, bah, c'est notre plafond. On ne peut pas faire plus, quel que soit le nombre d'affaires. Donc nous, on va juste prendre les affaires les pires. Et puis on va mettre des condamnations peut-être un peu plus sévères, parce que voilà, des choses plus évidentes à condamner. Mais en fait, nous, on a déjà complètement la tête sous l'eau. Donc en fait, le taux de réponse pénale, bah, il peut y avoir de plus en plus d'agressions ou de viols sexuels sur mineurs, ça changera rien. On a nos quotas, on a nos juges qui se répartissent les affaires en fonction du type d'affaires, etc. Et voilà. Et de toute façon, il n'y aura pas plus. La capacité, entre guillemets, de réponse pénale de la justice française, des tribunaux français, elle est de entre 4 500 et 5 000 viols sur mineurs par an, pardon, entre 2 500 et 3 000 viols sur mineurs par an, et entre 4 500 et 5 000 agressions sexuelles sur mineurs par an. C'est tout, on peut pas faire plus. Voilà. Donc là, ça, si vous voulez, c'est je me mets à la place de, je me mets l'avocat, pas du diable, mais d'avocat des gens qui ont les mains dans le cambouis, et voilà, qui peuvent tout à fait rétorquer ça. Voilà, c'est difficile à contrer, sachant que quand même, c'est un peu facile. C'est un peu facile. Parce que dire, ça sous-entendrait que c'est le cas pour toutes les infractions, ça sous-entendrait que, bah, il n'y a pas de priorisation à avoir dans un tribunal en termes d'infraction. Est-ce que c'est pas quand même un peu plus grave les viols sur mineurs que d'autres infractions qui augmentent aussi? Est-ce que dans la capacité d'accueil d'un tribunal, on ne peut pas donner une priorité à des choses aussi graves? Qu'est-ce qui est le plus grave qu'un viol sur mineur? Un meurtre, un attentat terroriste? Ouais, bah, il n'y en a pas 1 000 par an. Hein. Donc, vous voyez? Donc, en fait, tout ça, pour nous, c'est un peu des cache-misères. On l'entend, l'argument, on l'entend. Et pour quelqu'un qui travaille dans le tribunal au jour le jour, je suis persuadé que c'est vrai, c'est ses contraintes économiques et moyens humains, etc. Néanmoins, quand on cherche des solutions, des fois, on en trouve. Hein. Donc, effectivement, le ministère a sa responsabilité, le budget a sa responsabilité. Néanmoins, ça n'exonère absolument pas les juges de ce pays. Continuons. Qui peuvent quand même se poser des questions sur les taux constatés. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein, les condamnations. Alors, maintenant, on a vu ce qui est arrivé dans les entrées et la première orientation des affaires. Maintenant, on va aller de l'autre côté de la boîte noire. On se penche sur la sortie. On trouve des condamnations en baisse en valeur absolue. Donc, on a. Vous entendez bien. On a moins 27% de condamnations pour les viols sur mineurs et moins 33% pour les agressions sexuelles sur mineurs. Donc c'est quand même complètement consternant. Vous imaginez, devant le raz-de-marée des plaintes, enfin soi-disant, hein, un raz-de-marée des plaintes, des augmentations énormes, doublées en 10 ans, on a des condamnations qui baissent. Du nombre de condamnations en baisse pour un même nombre, enfin pour un même nombre, entre guillemets, pour une réponse pénale qui est la même en valeur absolue à peu près. C'est quand même étrange. Alors après, on peut nous dire, ah bah oui, mais toutes les affaires qui arrivent, elles sont pourries. Alors attends, là, faudrait savoir, quoi. On a 10 fois plus, on a 2 fois plus d'affaires qui arrivent. On fait le tri là-dedans en prenant que les pires pour pouvoir condamner, hein, je suppose. Puisque si on classe avec des infractions non caractérisées, insuffisamment caractérisées, bah, c'est celles qui restent, c'est celles qui sont le mieux caractérisées, hein, qui sont suffisamment caractérisées. Et là-dessus, on a encore des condamnations en baisse. Bah, on se fout de la gueule de qui, là? On se fout de la gueule de qui là? Donc l'emprisonnement ferme, effectif, réel, n'intervient que dans 29% des condamnations pour viol et 36% des agressions sexuelles. Que dire de plus? Donc vous voyez le graphique. On voit le nombre de condamnations. Alors le dernier chiffre en plus 2021 est un petit peu biaisé, parce que vous voyez, il y en a beaucoup moins en 2020, parce que les tribunaux n'ont pas travaillé à cause du Covid, donc ça se rattrape en 2021. Vous voyez, les affaires, l'inertie, donc grosso modo, il faut faire une moyenne sur les 3-4 dernières années. Idem pour les viols. L'évolution du nombre de condamnations par agression sexuelle et emprisonnement. Donc voyez le graphique du haut, c'est les viols sur mineurs, le graphique du bas, c'est les agressions sexuelles. Alors là, effectivement, le jeu de couleurs est pas bien. Donc on a une différence. Vous avez que 522 viols sur mineurs de 15 ans qui sont condamnés en France. Je sais pas si, mais même les chiffres dans l'absolu. Est-ce que vous vous rendez compte? Il n'y a que 520 personnes qui ont une peine de prison pour viol sur mineur en France chaque année. 520. Et sur eux, il n'y en a que 100, il y en a qu'une centaine, allez, 150 sur la dernière année, qui vont vraiment en prison. Mais on parle de quoi là? On parle de centaines de milliers de victimes? Et on parle de 500 mecs, 100 mecs qui vont en prison? Mais enfin. Et pour les agressions sexuelles, c'est pas mieux, hein? Là, on est à 700, 800 qui vont en prison. Pour des centaines de milliers d'actes et des dizaines de milliers de faits qui arrivent en justice. Parce qu'à la limite, on peut dire oui, mais les gens portent pas plainte, c'est de leur faute. Bon, c'est pas difficile de culpabiliser une petite fillette de 7 ans. Mais bon, c'est des discours qu'on entend. Mais oui, l'omerta, le déni dans les familles, ok, d'accord. Mais enfin bon, là, on en parle quand même de dizaines de milliers de cas qui arrivent au service de police et au service de justice quand même. Comment on arrive à la fin à avoir 120 gars emprisonnés pour viol sur mineur, 800 gars emprisonnés pour agression sexuelle sur mineur? Enfin, c'est fou quand même. Alors. On constate néanmoins que la durée moyenne des condamnations données à des majeurs pour des abus sexuels sur mineurs a augmenté de plus de 16% pour les viols et 18% pour les agressions sexuelles en 15 ans, soit 1% d'augmentation de peine, 1% de la durée de la peine qui augmente par année sur la période. Donc bon, on se réjouit hein, de petites choses, de miettes. Donc effectivement, il y a moins de condamnés, mais... Par contre, les condamnés, ils ont un petit peu plus. Un petit peu plus. 1% par an. Hein, c'est pas non plus. Pour autant, la durée absolue moyenne des peines, parce que ça, dire que ça a un peu augmenté, il faut se rendre compte à partir de combien. Donc la durée moyenne des peines, c'est de 5 ans. Donc les peines prononcées, c'est 5 ans pour les viols et à peine plus de 2 ans pour les agressions. Donc, ok, ça a augmenté, mais enfin bon. 5 ans de prison pour avoir violé un gamin? Quand tu te fais choper? Quand t'es le peu que tu te fais choper? Et au final, sur ces 5 ans, tu feras que 2 ans et demi? Hein? Et rappelez-vous des réductions de peine qui s'appliquent moins 50% au maximum. Agression sexuelle, là, 2 ans pour agression sexuelle, il ira pas. Hein? Enfin, il ira. Ah oui, non, pardon, c'est des peines effectives, il ira 1 an. Donc là, je sais pas si vous imaginez, donc, évolution de la durée moyenne de la peine théorique. Ah non, non, même pas, c'est la peine théorique. Donc 58 mois, 27 mois, donc ça revient à ce que je vous ai dit. Sauf que les taux de peine réels de prison ferme effective, physique, réalisés parmi ces peines prononcées, et on les a, sont en baisse de 29% pour les viols. Moins 35% en 17 ans, soit 2% par an. Donc en fait, on a des condamnations qui sont plus élevées sur le papier, mais qui sont moins réalisées en réalité. Donc en baisse de 29% pour les viols et de 36% pour les agressions sexuelles. Ils sont relativement stables. Moins 9% en 17 ans. En valeur absolue, c'est très peu. C'est à peine un tiers. D'accord? Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc là, on va refaire le récapitulatif, mais ça veut dire qu'il y a à peine 30%, un tiers des gens qui sont condamnés à la prison ferme, des majeurs sur des mineurs, parmi le peu de gens, hein, qui vont être condamnés et qui vont aller vraiment en prison. Seulement un tiers. Bon allez, on récapitule tout pour se rendre compte, parce que là, ça devient un délire. C'est flippant. Donc on va récapituler avec les flux, d'accord? Qu'est-ce qui rentre dans la boîte noire de la justice? Qu'est-ce qui en sort? On va récapituler aux différentes étapes les flux entrants et sortants de la boîte noire. Donc, sur 18 404 viols sur mineurs, ce qui sont des crimes entrant au parquet en 2021. Donc ça fait 100%. Seuls 16% donnent lieu à des poursuites pénales. 3% seulement donnent lieu à des condamnations. Et 0,8% à des emprisonnements réels. D'accord? Donc si jamais vous avez la malchance, entre guillemets, d'être un pédophile qui a fait un viol sur mineur, et que la plainte, avec la victime qui porte plainte, ce qui n'arrive que dans un cas sur 8, maximum, et que la plainte arrive au parquet, même avec votre plainte qui arrive au parquet, vous avez moins de 1% d'aller en prison. Moins de 1%. Elles sont où les associations féministes là? Elles sont où les gens qui militent pour le droit? Et où le patriarcat et tout ça? Vous êtes où là? Sur 31 960 agressions sexuelles sur mineurs, donc des délits entrant au parquet en 2021, donc ça fait 100%, seulement 15% donnent lieu à des poursuites, 9% à des condamnations, 3% à des emprisonnements réels. Donc je sais pas si vous voyez, alors bon, c'est un peu relatif, mais même sur l'histoire des correctionnalisations des viols. Ah ouais, la chance d'être emprisonnement réel quand on est en correctionnel, ah ouais, ça, effectivement, c'est énorme, c'est 3% au lieu de 0,8. Bon, alors c'est pas pour les mêmes crimes et délits, donc c'est un peu abusif ce que je dis, mais franchement, c'est pas fou, hein. C'est pas fou, hein, le surplus de condamnations en correctionnel. Alors regardez, c'est peut-être s'il y a qu'un seul graphique à retenir, c'est celui-là, c'est celui du flux entrant-sortant. Regardez bien, 100% des viols à rature mineure avant au parquet, en rouge. Poursuite pénale, en mauve, il n'y a plus que 15% de ça. Condamnation 3%, emprisonnement effectif 0,8%, pour une peine de 4 ans et demi en moyenne. Donc en réalité, s'il se comporte bien et qu'il fait le gentil, 2 ans et quelques. J'ai envie de vomir, hein. Ce pays, c'est tellement de la merde, quoi. Bref, désolé pour les petites saillies personnelles. Pour les agressions sexuelles, bah, c'est à peu près la même chose. 15%, 9% de condamnation au lieu de 3, et 3% d'emprisonnement réel au lieu de 0,8. Pour des peines de 2,25 ans en moyenne. D'accord? Donc au final, il va se retrouver à faire moins. On avait déjà réalisé dans un article précédent une infographie, je vous y renvoie, je la remets là, évoquant par d'autres calculs sur d'autres chiffres. Donc on n'avait pas ces calculs du ministère de la Justice. Enfin, c'était des chiffres du ministère de la Justice, mais pas aussi complets. Et on obtient des ordres de grandeur relativement proches. Voilà, même s'ils sont sensiblement plus élevés en termes de taux de condamnation, par exemple. On était sur 2% de. Oui, alors cette infographie, elle tenait compte des seulement une victime sur 8 qui porte plainte. Vous voyez? Donc là, on avait des chiffres, même dans cette infographie, où ça paraissait ridicule, hein, on n'avait que 3 gars qui allaient en prison, on était à 0,19, mais même ça, c'était encore bien trop élevé. Vous voyez? Parce que vous ne pouvez pas comparer les 0,19% et les 0,8. Les 0,8, faudrait les multiplier par le rapport 1 sur 8, donc je peux vous le faire vite fait. Oui, donc du coup c'est évident, donc il faut diviser par 8, voilà, si on considère qu'une personne sur 8. Donc les 0,8% en fait c'est 0,1. Donc vous voyez, 0,1, nous on trouvait 0,19, donc on trouvait le double. Voilà. On trouvait 0,2, là on serait plutôt à 0,1 pour les viols sur mineurs. On peut faire le même calcul pour les emprisonnements. Donc il faut faire 3% divisé par 8. Ça nous met à 0,37. Voilà, 0,37. Et là, bon, on retombe à peu près sur nos pieds. Hein. De toute façon, c'était les chiffres du ministère de la Justice. Donc, bon, c'était pour visuellement vous donner cette infographie. Ça exprime à peu près la même chose et ça peut être intéressant. Suivant. Maintenant, on va s'intéresser aux proportions de mineurs parmi les auteurs. Parce que souvent, on entend ça. On entend souvent dans les médias ou dans la bouche de tel ou tel expert ou tel ou tel politique que, mais attention, la pédocriminalité, c'est pas du tout ce que vous croyez. La moitié des viols sur mineurs sont le fait de mineurs. Hein, on entend ça. On l'a entendu lors des débats à l'Assemblée nationale il y a quelques années. Examinons sérieusement les condamnations de mineurs. Voyons ça, puisqu'on a là on a les chiffres, on a des chiffres qui séparent auteurs mineurs ou avec au moins un auteur mineur et les victimes mineures, les auteurs mineurs, etc. Donc déjà, il faut bien voir que, comme je l'avais dit tout à l'heure, une victime mineure, c'est un mineur de 15 ans, alors qu'un auteur mineur, un agresseur mineur, c'est un mineur de 18 ans. Donc déjà là-dessus, c'est pas quantitativement énorme, mais quand même, il y a ces 3 ans font la différence. Ainsi, la statistique qui est toujours mise en avant, elle est presque juste de dire la moitié des viols sur mineurs sont le fait de mineurs, enfin si on parle des condamnations. Donc elle est presque juste, mais en fait, elle est en baisse puisque c'est pas 50%, c'est 44% en 2021, déjà, pour les viols sur mineurs de 18 ans. Et ce taux, il tombe à seulement 39%, donc le nombre d'auteurs mineurs parmi les agresseurs, donc le nombre d'agresseurs mineurs sur tous les viols sur mineurs, c'est seulement 39% pour les agressions sexuelles si on envisage, pardon, pour les viols sur mineurs, si on envisage plus justement à cohorte égale, c'est-à-dire considérer que les auteurs de moins de 15 ans sur des victimes de moins de 15 ans. Déjà, ça serait un peu plus juste. Mais regardez bien, c'est seulement 24% de mineurs de 18 ans qui se retrouvent parmi les affaires de viol sur mineurs arrivant au parquet. D'accord? Ça veut dire que... Mais c'est 44% des condamnés. Et même 39%, si on prend les mineurs de 15 ans. Donc ça veut dire qu'en fait, le taux de mineurs parmi les agresseurs, eh ben c'est que 1 sur 4 quand ça arrive au parquet. Par contre, ça passe de 24% à 39% parmi les condamnés. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on en déduit? Ben, on en déduit juste éventuellement ce qu'on avait déjà relevé dans d'autres articles, ben, qu'un adulte, il se défend deux fois mieux devant un tribunal qu'un mineur de 18 ans. Voilà. Un mineur condamné, enfin, accusé de viol sur mineur qui a entre 15 et qui a moins de 18 ans, eh ben, il se défend deux fois moins bien qu'un adulte devant un tribunal. Effectivement, en vrai, ça paraît plausible, hein. De la même manière aussi, avant même une éventuelle plainte pour que l'acte ne soit pas prouvable, préméditation, hein. De la même manière, un majeur, ben, il aura lu des choses, il aura peut-être prémédité son acte, il aura préparé les choses pour qu'il n'y ait rien de prouvable. Un mineur de 18 ans, peut-être pas. Peut-être pas, voyez. Un mec de 17 ans qui viole une gamine de 12 ans, je sais pas si il a étudié toute la bibliographie pédophile de comment faire, comment s'y prendre, à quoi faire attention, quoi dire devant les policiers, quoi dire devant le tribunal, etc. Peut-être même qu'il espère qu'il va avoir du pardon, parce qu'il est mineur, qu'il savait pas trop bien ce qu'il faisait. Et puis peut-être même qu'il va avouer du coup, parce qu'avec la clémence, il va passer dans la justice pour mineur. On va lui dire qu'il a quasiment aucune chance d'aller en prison, qu'il suffit de réparer, qu'il a la chance d'être mineur et que c'est pour ça qu'il peut avouer, que ça va bien se passer. Vous voyez? Donc en fait, c'est ça que ça veut dire cette statistique. Donc ne laissez plus jamais dire par personne qu'un condamné sur deux pour viol sur mineur est un mineur. La statistique est vraie, mais ça reflète pas du tout les choses, hein? Pour les agressions sexuelles, le taux est aux alentours de 30%. Les mineurs, alors, est-ce que, donc, comme le taux est plus bas pour les agressions sexuelles, est-ce qu'on peut imaginer que les mineurs se défendraient mieux contre les agressions sexuelles? Bon, on pose la question. Le fait étant vu de manière moins grave, peut-être, quand il est commis par un mineur. Voilà, peut-être que dans, effectivement, une agression sexuelle sur mineur commis par un mineur, qui est même pas un viol ou qualifié comme tel, on peut imaginer qu'il arrive à mieux se défendre. Les mineurs font aussi de plus en plus l'objet d'aménagements de condamnation avec des circulations des affaires par les tribunaux pour mineurs et toutes les structures d'aval, d'accompagnement et de réinsertion pour éviter que ça devienne justement des délinquants criminels récidivistes dans leur vie d'adulte. Ce qui est très bien, hein, on ne remet pas du tout ça en question. La question qu'on peut se poser, c'est plutôt comment on arrive à avoir un mineur de 16 ans qui viole une petite fille de 8 ans. C'est plutôt là, ça la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qu'il a vu? À quoi il a été exposé? Par quel genre d'adulte il a été accompagné? À quel moment il n'y a aucune assistance sociale qui voit rien, à quel moment, etc., etc. Comment c'est possible de vivre dans une société en 2023 et on ne se pose pas la question de savoir comment le gamin en est arrivé là? Peut-être qu'il y a d'autres déterminants. Peut-être que ce n'est pas le mineur qu'il faut traiter, mais c'est tout le reste, hein? En passant des lois, peut-être. Donc, taux de mineurs parmi les auteurs et les condamnés, vous avez le graphique pour agression sexuelle sur mineurs. Donc, vous voyez, on voit bien, donc, pourcentage de mineurs de 18 ans parmi les condamnés pour des agressions sexuelles sur des mineurs de 15 ans. Donc ça, c'est au total. Pourcentage de mineurs de 15 ans parmi les condamnés pour des agressions sexuelles sur des mineurs de 15 ans. Donc là, si on enlève les 15-18, vous voyez, on perd 5% déjà. Et le pourcentage de mineurs de 18 ans arrivé au parquet parmi les agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans. Donc là, c'est moins que pour le total que pour les agressions sexuelles. Donc on est à 22%. Ok. Durée de la procédure. Alors, donc durée de la procédure, c'est parti. La durée moyenne de la procédure est complètement lunaire. Elle est bien supérieure aux peines théoriques prononcées, avec 9 ans en moyenne pour les viols et 6 ans pour les agressions sexuelles. Les sentences sont moins lourdes car elles sont jugées principalement en correctionnel. Éventuellement. On n'oublie pas les frais d'avocat, bien souvent astronomiques, qui courent pendant tout ce temps-là. On parle bien souvent de dizaines de milliers d'euros pour des services qui chiffrent en centaines d'euros à l'heure de travail. Hein. D'ailleurs, petite parenthèse. Donc un avocat, par exemple, 250 euros de l'heure. Alors il faut savoir, parce qu'on a parlé avec eux, qu'il y a un truc complètement dingue et exorbitant. On avait fait un article d'ailleurs sur le Conseil national des barreaux. En France, il existe donc le Conseil national des barreaux. C'est les gens qui vous apportent vos clients, grosso modo, hein, parce qu'ils répartissent les affaires. Donc voilà, le gars, il a les affaires dans les mains et puis il donne à qui il veut. Alors vous pouvez avoir les clients qui viennent vers vous directement parce qu'ils vous connaissent, vous avez une bonne réputation, très bien. Et puis après, vous avez tout ce qui est de l'ordre, de l'aide juridictionnelle, etc. Donc, être un avocat qui n'est pas inscrit au barreau, c'est juste pas possible. Et puis de toute façon, je sais même pas si on a le droit, il faut être inscrit à un tribunal, à un barreau d'un tribunal. Donc ça, c'est intéressant. Sauf que ces gens-là, ils prennent 20 à 30% de votre chiffre d'affaires. 20 à 30% du chiffre d'affaires de tous les cabinets d'avocats de France. Je sais même pas combien ça fait au total. Il faudrait que j'essaie d'estimer ce chiffre. C'est du délire. Alors vous imaginez, et ça c'est pas des impôts. 20-30%. Donc sur 100% du chiffre d'affaires, l'avocat, il faut qu'il paye son local, machin truc. Il a 50% de charges, bah, comme tout entrepreneur. Et derrière, il faut qu'il paye 20-30%. Donc il lui reste pour payer ses charges, son salaire, il lui reste 70% de son chiffre d'affaires. Ou 80% de... Il lui reste 20, pardon, il lui reste 20-30% de son chiffre d'affaires à peine. C'est un délire quand même. D'où la justice, elle est accessible à tout le monde, l'aide juridictionnelle, blablabla. Enfin, arrêtez, c'est une blague. Donc, on revient. Donc, on n'oublie pas les frais d'avocat pendant ces 9 ans de procédure, l'usure psychologique des familles, qui n'en peuvent plus. Vous imaginez, pendant 9 ans de votre vie, déjà, ça a été dur d'y aller devant la justice. Et ça vous use et vous n'y arrivez jamais et vous avez l'espoir, l'ascenseur émotionnel, vous avez l'espoir que ça va le faire et non, il fait appel et si et ça, on refait des expertises, on revient, on avance, on recule. Et mes gens, ils évoluent pendant tout ça. Donc des familles et des victimes qui doivent se construire quand ils sont mineurs, qu'on se construire dans la vie, c'est leur futur qui se construit pendant tout ça ou avancer. En tant que parent, en tant qu'adulte, la vie continue, il faut payer les factures, le boulot, souvent il y a des séparations, avec des affaires judiciaires en cours. Enfin, c'est terrible. C'est terrible. Et donc cette durée moyenne, en plus, elle a augmenté. Elle a augmenté. On est à plus 33%, plus un tiers, entre 2004 et 2021. Et pareil, plus 34% pour les agressions sexuelles. Mais enfin. Donc ça va dans le sens effectivement de l'engorgement des tribunaux. Mais enfin bon, c'est pourquoi c'est quoi? Enfin surtout l'engorgement et puis la non-priorisation de ces affaires. La non-priorisation. C'est les derniers. C'est ce qui est les procédures pénales les plus longues avec les trucs fiscaux et la corruption. Vous trouvez ça normal? On continue. Alors, juridiction. Oui, pardon, et donc pour terminer sur la durée de la procédure, donc ça veut dire quand même qu'on a des augmentations de 33% en 17 ans, donc ça fait 2% par an. Ça veut dire que chaque année qui passe de votre procédure, vous savez que ça va durer un mois et demi de plus par an. Vous voyez? Donc chaque année qui passe. Voilà. Si votre affaire, elle dure 3 ans de plus, et bah du coup, vous savez qu'elle durera 3 ans et 4 mois de plus, en fait. C'est bien, hein? Allez, on a la chance donc, enfin la chance d'avoir aussi une ventilation par juridiction. Donc on terminera pour les plus curieux, pour ceux que ça intéresse, un petit côté localo-régionaliste, par un tour des juridictions françaises, avec des statistiques détaillées géographiquement, soit par tribunal, soit par département, ce qui est parfois très proche pour les régions peu peuplées. Effectivement, il y a des départements où il y a un seul tribunal de grande instance. Je dis ça, je vais quand même le vérifier. Donc oui, c'est ça, la plupart en fait des départements peu peuplés. Et puis en fait, avec la nouvelle carte, on a même fermé des tribunaux en plus. Donc voilà. Hélas, on a ces données uniquement pour le taux de réponse pénale sur la dernière décennie. Voilà, on n'a pas ces données par juridiction pour les condamnations. Voilà, c'est que la réponse pénale. Donc ça donne une approche de ce que font les tribunaux les uns par rapport aux autres. Donc, on a pu vous tracer des distributions selon la taille des tribunaux, et puis on a fait des classements selon le taux de réponse pénale. Voilà, ces distributions et ces classements ont été produits. Donc, on voit ici la distribution des juridictions, donc des différents tribunaux, pour les viols sur mineurs. Donc, les viols sur mineurs, le pourcentage de réponse pénale aux viols sur mineurs est sur l'axe du bas, l'axe des abscisses horizontales, en fonction du nombre d'affaires par an. Donc, c'est-à-dire que l'axe des ordonnées, celui qui est vertical, c'est la grosseur du tribunal, grosso modo. Donc, plus le point est haut, plus c'est un gros tribunal. Plus le point est à gauche, plus la réponse pénale est faible pour les viols sur mineurs. Plus le point est à droite, plus la réponse pénale est forte pour les viol sur mineur. Et plus le point est bas, et plus c'est un petit tribunal, entre guillemets, pour ce genre d'affaires. Ou en tout cas, il y en a très peu qui arrivent dans le département. Voilà, après, il y a les filtres d'avant aussi, la police, la gendarmerie, etc. Donc voilà, je vous laisse faire votre petit marché là-dessus. On se rend compte, il y a quand même tout un nuage de petits tribunaux qui ont une réponse pénale extrêmement faible. Voilà, Roanne, Gap, Montluçon, Tarbes, Albertville, etc. On pourrait se dire que c'est le manque de moyens, c'est compliqué de faire des enquêtes sur ce genre de trucs dans un petit tribunal, oui, mais bon, le problème c'est qu'il y a des petits tribunaux aussi petits et qui ont des réponses pénales moyennes ou fortes. Donc en fait, l'argument de dire que c'est un petit tribunal, je sais pas trop. Notamment, on peut citer Pau, Avignon, Senlis, La Martinique, Besançon, Annecy, QC. Et puis on voit qu'au milieu, on a les tribunaux où il y a pas mal, où les entre guillemets gros tribunaux. Au-dessus, on va dire, de 1000 viols sur mineurs sur 2012-2022, hein, c'est sur 10 ans. Ces tribunaux sont grosso modo dans la moyenne, hein, c'est-à-dire entre 20 et 30%. Bon, mais la réponse pénale, quand même, ça varie énormément. Donc déjà, on peut constater ça. On peut constater tristement les disparités qui interrogent. Comment c'est possible d'avoir moins de 5% de réponse pénale pour des viols sur mineurs à presque 40%, à une moyenne à 20% suivant la juridiction? On veut bien des explications, hein, n'hésitez pas, hein, si vous êtes travaillé dans les tribunaux, si vous voulez nous expliquer un peu pourquoi dans la mécanique judiciaire c'est normal. Moi j'ai pas, voilà, on s'est posé la question, on n'a pas trouvé de réponse évidente ou voilà prouvable ou de la documentation qui irait dans ce sens. Bon. Donc suivant le tribunal, on peut avoir une chance de poursuite pénale avec un écart. Donc le taux de poursuite pénale il est de 1 à 10, ce qui est quand même énorme. Et surtout, une foule de petits tribunaux de campagne, donc, qui plafonnent vertigineusement entre 3 et 12% de réponse pénale pour les crimes de viol sur mineur. Et donc, ce n'est pas la taille, comme je viens de le dire, qui justifie, car d'autres tribunaux assument ces prises en charge de dossiers avec des taux de réponse pénale bien plus élevés. On confirmera aussi des données connues, comme la relative bonne réponse pénale des dom-toms. Hein, ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà repéré dans des statistiques avant, ou même dans les articles de presse. Effectivement, les juges qui siègent dans les dom-toms ont face à eux des gens des dom-toms et les condamnent plus sévèrement qu'en France métropolitaine. Voilà. On va pas aller plus loin sur le préjugé qu'il peut y avoir là-dessus, raciste, humaniste, j'en sais rien, comme vous voulez, lisez-le comme vous voulez. En effet, le taux de réponse pénale est de 27% en moyenne pour les viols sur mineurs dans les dom-toms, au lieu de 20% dans la métropole. Et 22% pour les agressions contre 18% dans la métropole. Alors, sachant que dans les dom-toms, en nombre d'abus sexuels sur mineurs pour 100 000 habitants, on est dans des taux très élevés aussi. Voilà. Donc peut-être qu'effectivement, il y a un focus qui est mis là-dessus au niveau des tribunaux et qu'on le voit comme un fléau là-bas. Alors qu'ici, non. Voilà. Le classement des juridictions et des départements figure juste après en annexe de cet article, donc vous pourrez aller chercher votre tribunal, votre département pour voir un peu où vous vous situez, sachant que c'est des données, je vous rappelle, qui sont faites sur des milliers de cas sur 10 ans, donc c'est difficile d'argumenter que ça peut être tel juge qui pendant 10 ans a mal agi, il y a des mutations, enfin vous voyez. Je vois pas que ça soit particulièrement lié à une personne, ça le peut, mais surtout sur des très petits tribunaux. Mais moi, pour moi, c'est plutôt des ambiances culturelles de tribunaux et ou départements. Vous avez le même graphique de distribution pour les agressions sexuelles, où vous allez avoir, alors réparti de manière beaucoup moins, ça va, c'est beaucoup plus en moyenne, hein, bizarrement, c'est moins clivant, c'est-à-dire que l'agression sexuelle, il y a un taux de réponse pénale entre 15 et 25%, il y a très peu de marge en fait. Donc il y a des mauvais élèves, des petits tribunaux qui même pour ça ça les intéresse pas, donc c'est Alès, Gap, Guéret, Carcassonne, Argentan, voilà, Rouen, et puis quelques réponses fortes, La Réunion, Béthune, Sarreguemines, Arras, donc le nord de la France, on est content de voir que dans les endroits où il y a un gros problème, il y a une réponse un peu plus forte, Tarascon, Cayenne. Donc, oui, la problématique, visiblement, c'est pour prendre en compte les viols sur mineurs. Voilà, on a beaucoup de mal, hein, là, il y a un souci. Alors, enfin, il y a un souci en général, mais vous voyez, le taux de réponse pénale, enfin, il est encore plus bas pour... comment dire, la disparité de la réponse pénale pour les viols est bien plus grande et bien plus, finalement, un peu, pas aléatoire, mais bien plus variable que pour les agressions sexuelles. Là, on a des graphiques qui redisent un peu la même chose, puisque les départements recoupent parfois les juridictions. Donc effectivement, on revoit les mêmes tribunaux de campagne, entre guillemets, où là on se rend compte qu'effectivement, on se compte que des tribunaux ruraux. On retrouve les bons élèves, le Doubs, Guadeloupe, Martinique, pour les viols. Et je vous laisse lire. Voilà. Et je voulais surtout aller voir les classements dans les annexes. Conclusion. Eh bien, écoutez, on peut dire que l'heure n'est plus au grand discours. Voilà, c'est bien qu'on parle de pédocriminalité à la télé, c'est bien qu'on parle de pédocriminalité dans les médias, dans les journaux, à la radio. Mais ça suffit pas de faire la civise, ça suffit pas, le juge du rang, ça suffit pas de parler d'inceste et pas du reste, ça suffit pas. Voilà, donc c'est un peu à l'image de l'écologie. Tout ça, c'est médiatique, c'est de l'écume, mais dans les chiffres, c'est le contraire qu'on observe. Maintenant, il faut une action déterminée. Donc, on vous renvoie à nos revendications pour remédier à ce fléau sociétal qui ne fait que prendre de l'ampleur. Notamment, donc, ça prend de l'ampleur en termes de nombre d'adultes concernés. Ah oui, grâce à Internet, on voit les statistiques. Eh bien, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de commencer à se vivre en tant que pédophile, hein. Bientôt, ça va être les militants résistants, comme les LGBT, la blague. Donc de plus en plus d'adultes concernés, de plus en plus de banalisation de la pédocriminalité via les sites pornographiques, via le darknet, via les réseaux sociaux qui permettent d'échanger des choses de manière totalement cryptée, anonyme et intraçable, voilà. Via l'augmentation de la structuration de réseaux sur Internet pour se trouver et s'organiser logistiquement dans le monde réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus que n'importe quand dans l'histoire humaine, c'est tellement facile, si par exemple vous êtes des parents pédophiles, de trouver d'autres parents pédophiles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, à l'époque, les mecs comme ça, ils allaient sur des sites libertins, ou ils allaient sur des clubs libertins pour, tu vois, de fil en aiguille, connaître des gens et peut-être arriver à baiser les enfants des autres et à faire baiser ses enfants par d'autres. Mais aujourd'hui, mais enfin, ça n'a plus aucun intérêt, quoi. Il suffit d'aller sur des forums du darknet qui parlent de ça, ah là là, moi je suis dans telle région, nanani, nanana, enfin, c'est tellement beaucoup plus facile, quoi. Donc, forcément, c'est un fléau sociétal qui prend de l'ampleur, forcément. Et également de revenus financiers, engendrés par la marchandisation des enfants par des mafias, générant potentiellement des caisses noires. Alors, il y a deux éléments là-dedans, c'est la marchandisation, bah oui, vous voyez, comme les trucs en temps réel sur Skype, on peut demander, ah bah oui, maintenant, pour même plus avoir entre guillemets, le danger de se faire choper peut-être en croyant qu'on rencontre d'autres pédophiles, enfin d'autres pédocriminels par le net et qu'on peut se retrouver en ayant peur que ce soit des gendarmes. Ah ben non, maintenant, par exemple, une maman peut vendre, ou un papa peut vendre les viols de son enfant en direct et gagner de l'argent avec ça, sans même avoir besoin de se déplacer, en le filmant avec sa caméra et en le vendant en direct à quelqu'un qui va lui payer avec des bitcoins ou je ne sais quoi. Mais enfin. Et c'est vrai pour tout le reste. Donc forcément, les revenus financiers augmentent énormément. Alors je vous renvoie, j'ai pas mis de source là-dessus, mais c'est bien connu. Et ça génère des caisses noires, comme tout ce qui est illégal. Des caisses noires, c'est bien pratique pour avoir des actions politiques d'envergure, stratégiques, quand on a besoin de lever des fonds énormes et de pas ça trop savoir d'où ça vient, ben ouais, c'est des caisses noires. Donc, voilà, c'est ceux qui ont intérêt à faire des caisses noires et à être en de mèche avec la mafia, ben en fait, ils ont intérêt à ce que ça s'arrête pas aussi. Mais également de destruction, évidemment, ben de l'innocence et de la pureté enfantine de manière massive. On est en train de détruire de manière massive et brutale, et dans des proportions énormes, nos enfants qui vont faire la société de demain. Ça devient très compliqué de les préserver. Heureusement, bon, on commence à avoir des signes, hein. Il y a plus trop de téléphones sortis dans les cours de collège. On va avoir de plus en plus de parents qui n'ont plus la télé, de plus en plus de parents qui ne donnent pas de téléphone portable à leurs enfants trop tôt, ou alors avec des choses qui sont des téléphones bridés ou des téléphones non smartphone. Enfin bref, enfin, c'est le monde à l'envers. Alors en fait, c'est aux parents de protéger leurs enfants d'une culture massive du viol de mineurs qui est grosso modo non combattu et largement donné à disposition gratuite de tous les enfants par l'ensemble de la société. Le gouvernement ne fait rien, mais ce serait aux parents de devenir des combattants pour arriver à protéger leurs enfants et que ça fasse des gamins qui sont pas complètement timbrés et qui se disent pas, tiens, c'est chouette, je pourrais essayer de violer ma petite sœur ou violer la copine de classe, c'est super sympa, je l'ai vu. Enfin, mais on est où là, putain? On est où? Donc nous appelons les institutions qui nous gouvernent et plus largement tous les citoyens à accepter d'entendre déjà, d'entendre et d'accueillir correctement la voix des enfants victimes de viol. Parce que ça commence par là, hein. D'abord, seulement 1 sur 8 qui porte plainte. C'est d'abord ça. Tout le reste, effectivement, ça aide pas, hein, tout ce que je viens de vous dire. Et donc on n'oublie pas, on envoie de la force à toutes les familles de victimes qui sont nombreuses en France et partout dans le monde. Honneur, force et courage, on lâche rien. L'équipe Wanted Pédo.